Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Agatsuma. On parlera ensuite de plusieurs mangas des éditions Glénat avec la présentation du manga Captain Tsubasa Kids Dream. On aura la chronique du volume 29 de One Piece, la chronique du volume 23 de Altaïr, la chronique du volume 2 de Mortician et la chronique du volume 4 de Moya Simone. Et on aura également les sorties manga de la semaine, ainsi que la suite de la petite partie culture concernant les secrets du saké. Voilà, donc une émission un peu spéciale où on va rattraper un peu les lectures de ces dernières semaines, donc avec les éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission, c'est Shikiyori no Ane de Hatsune Miku en featuring avec Kagamine Len. Et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Agatsuma.
Yeah.
C'était Hatsune Miku avec la chanson Shikiori no Ane en featuring avec Kagamine Len. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Agatsuma, de son vrai nom Agatsuma Hiromitsu. Donc c'est un musicien japonais qui est né le 27 juillet 1973, il est donc âgé de 48 ans et il est en activité depuis 2001. Il a fait partie des labels Toshiba EMI de 2001 à 2007 et EMI Music Japan de 2007 à 2013. Hiromitsu Agatsuma est un joueur de Tsugaru Shamisen, donc c'est un shamisen qui est plus large que l'instrument traditionnel japonais. Il est né, donc je l'ai dit, le 27 juillet 1973 à Itachi, dans la préfecture d'Ibaraki. Sa carrière commence en 2001 chez Toshiba EMI avec son album Agatsuma. Coup d'essai réussi puisqu'il gagne le titre d'album de musique traditionnelle japonaise de l'année 2001 au 16e Japan Gold Disc Awards. Dès son deuxième opus, Beams Agatsuma 2 en 2002, sa renommée s'étend puisque ce dernier sort aux États-Unis sous le label Domo Records en 2003. Il assure la promotion de cet album par une mini-tournée de 5 concerts dans l'Est des États-Unis qui rencontre un franc succès. L'engouement à son sujet ne tarde pas à traverser l'Atlantique puisqu'en 2005, il effectue une tournée passant par la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. En 2006, il gagne à nouveau le titre d'album de musique traditionnelle japonaise de l'année pour son album N. Durant cette année, il ne sort pas de nouvel album, mais il est appelé à diverses tâches, puisqu'il effectue une tournée en Australie pour l'année de célébration des relations nippo-australiennes. Il donne également un concert au Brésil pour une occasion similaire. En 2007, son album Soufou paraît et de nouveau, il étreint son shamisen dans les salles de Russie et d'Italie principalement. Un autre événement majeur de cette année est sa participation à la cérémonie d'ouverture du Grand Prix Moto du Japon, diffusée en direct ou différé dans plus de 200 pays. En 2008, la sortie de son album de reprise Agatsuma Play Standards lui permet de jouer la version shamisen de chansons telles que par exemple Beat It de Michael Jackson ou encore le générique des films Mission Impossible. Son actualité est ensuite marquée par la sortie d'un best-of intitulé Freedom le 28 juillet 2010. Le même jour, sa discographie continue de s'étendre avec Juki. A noter qu'à partir de 2009, il collabore avec Satoru Shionoya à la formation du duo Agashio. De cette rencontre naît un album éponyme à la fin de l'année 2009. Donc sa musique peut se comparer à celle des Yoshida Brothers dans un style plus moderne, mais le côté traditionnel reste toujours très présent dans sa musique. Et il a par ailleurs, ça vous intéresse, collaboré aussi avec Miyavi. Voilà. Côté discographie, il a sorti un total de 12 albums. Le premier, c'est Agatsuma, qui est donc sorti le 7 septembre 2001. Et le dernier, Juki, qui est paru le 28 juillet 2010. On a donc aussi un best album, The Best of Hiromitsu Agatsuma Freedom, qui est sorti le 28 juillet 2010. Un single, Yosakoi, qui est sorti en 2007. Et il a également participé à deux OST, l'OST de Labyrinth of Flames en 2000 et l'OST de Kyokai no Rine en 2015. Voilà, donc du coup, j'en parlais tout à l'heure, on va pouvoir s'écouter deux reprises de Agatsuma au shamisen. On commence avec la reprise de la chanson Beat It de Michael Jackson et on viendra juste après pour la présentation du manga Captain Tsubasa Kids Dream.
jusqu'à 22h, Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Agatsuma avec la reprise de la chanson Mission Impossible en version chamisène. On passe maintenant à la présentation du manga Captain Tsubasa Kids Dream. Donc c'est un shonen de genre action-comédie-tournoi qui a été écrit par Toda Kunikazu d'après l'œuvre originale de Takahashi Yoichi et prépublié dans le Shukan Shonen Jump. La version japonaise est parue en 2018 aux éditions Shueisha avec un total de 4 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 2 juin 2021 aux éditions Glénat dans leur collection Kids, avec pour le moment un tome de sortie. Vous pourrez retrouver Captain Tsubasa Kids Dream dans le commerce pour un prix de 6,90€. L'âge conseillé pour le lire est de 8 ans et plus, et il existe un manga à l'origine de ce remake, intitulé Captain Tsubasa, qui est paru en 37 tomes aux éditions J'ai lu. Le résumé de cette série, Tsubasa Ozora est un enfant passionné de foot qui rêve de devenir joueur professionnel et de partir au Brésil. Voici la série mythique Captain Tsubasa, ou Olive et Tom, comme on la connaît bien en France, dans une version moderne adaptée aux plus jeunes pour partager la passion footballistique dans toute la famille. Voilà, donc Captain Tsubasa Kids Dream à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Sure Go to the Country to Kiss de Riz. Et on viendra juste après pour la chronique du volume 29 de One Piece.
We will lose, we won't win. We can feel the smell, we know where to go. Share, go to the country to kiss. Come on.
Donc c'était Rizé avec la chanson Sure Go to the Country to Kiss. On passe maintenant à la chronique du volume 29 de One Piece. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, qui a été écrit par Oda Eiichiro, traduit par Sylvain Chollet pour la première édition, et prépublié dans le Shukan Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 99 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 98 tomes de sortie. Ce volume 29 est paru le 5 octobre 2005 au prix de 6,90€. Donc le résumé de ce tome, la bataille fait rage sur Verse où Shandia, pirate et garde divin se battent. Robin et Chopper ont trouvé les ruines mais chacun se heurte à un combattant de taille tandis que Luffy, avalé par le serpent géant, cherche une sortie et que Zoro tourne en rond. Donc Viper, le berserker et le leader des guerriers Shandia, il combat avec une volonté comparable à celle que Luffy montre lors de son affrontement contre chacun de ses adversaires. Ce serait suffisant contre de nombreux adversaires, ce serait suffisant contre les prélats, mais c'est loin de faire l'affaire contre Ener, détenteur du fulguro fruit. Donc l'homme foudre est ce qu'on peut trouver de plus proche d'un dieu, et qui, sinon Luffy le garçon au corps de caoutchouc, est en mesure de le vaincre. Son colossal projet arrive à son terme, son arche est achevée et Ener est prêt à se lancer à la conquête des îles célestes. Les guerriers Shandia sont rapidement vaincus et les pirates du chapeau de paille d'eux-mêmes. Seuls restent pour combattre Nami, Usopp, Sanji et enfin Luffy. Un très bon épisode et même si jusqu'à maintenant on trouvait Ener trop fort, que ses pouvoirs étaient trop démesurés, il en fait heureusement un usage relativement mineur. La vérité c'est que le personnage est énervant car il semble de plus en plus croire à sa propre légende alors qu'elle est depuis le départ une imposture. Mais bon, il est comme il est et on ne peut rien faire d'autre qu'attendre le moment où il déchantera. Voilà, donc One Piece à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite le quatrième opening de l'anime One Piece et Bon Voyage de Bon Bon Blanco. Et on reviendra juste après pour l'unique sortie manga de la semaine.
Bon voyage, ma bouche.
c'était Bon Bon Blanco avec la chanson Bon Voyage qui a servi de quatrième opening pour l'anime One Piece. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine et il n'y en aura qu'une cette semaine. Les maisons d'édition sont un petit peu en vacances elles aussi. Donc on aura une sortie jeudi 5 août chez Omake Books avec le volume 4 de Assistant Assassin. Voilà, on aura d'autres sorties la semaine prochaine, mais en attendant vous avez cette sortie à découvrir. Voilà, donc du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'était très rapide, c'est Toki no Ikigane de Rosalier, et on reviendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké. C'était Rosalie avec la chanson Toki no Ikigane. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des secrets du saké avec le livre du même nom qui a été écrit par Siméon Mollard et qui a été publié aux éditions Isekinicho. Alors, on passe maintenant au secret numéro 4. On va parler des sakés levurés. Donc, 99% des sakés japonais sont élaborés à partir de levures cultivées en ce sens. Depuis 1906, le gouvernement japonais s'emploie à sélectionner et reproduire les levures jugées les plus adaptées à la production de saké. Pour une fois, ils ont fait simple. Les levures ont été désignées par un numéro. La première sélectionnée a été donc la levure numéro 1, et ainsi de suite. Par la suite, ils ont ajouté un 0,1 derrière le premier nombre pour désigner les levures non moussantes. À noter que les levures 1 à 5 ont quasiment disparu. Les levures bénéficient aussi d'effets de mode. Actuellement, la 7, la 9 et la 14 sont parmi les plus populaires. Ces levures numérotées et cultivées au niveau national ne sont qu'un échantillon de toutes les levures sélectionnées pour le brassage du saké. Chaque préfecture, certains centres de recherche et des brasseurs utilisent et cultivent également leurs propres levures, qu'ils nomment comme bon leur semble. Depuis les années 1980, la mode est au saké aromatique. La levure joue le plus grand rôle dans leur production. Les levures sélectionnées apportent généralement des arômes fruités qui ravissent nos naseaux au premier abord. Le profil ultra-aromatique de ces sakés, qui privilégie l'arôme au goût, peut vite devenir gênant, voire repoussant pour le consommateur adepte du saké traditionnel. Contrairement à ce qu'assènent beaucoup de brasseurs, la plupart des sakés aromatiques, aux senteurs notamment de pommes, perdent toute leur majesté lorsqu'ils sont consommés chauds. Trop faibles, ils ne parviennent pas à prendre de l'ampleur avec la hausse des températures, et s'affaissent en bouche, leur nez se transformant parfois même en délicate odeur de chèvre mouillée. Très agréable. Donc à moins que vous ne soyez amateur de chèvre, vous pouvez passer votre chemin. Voilà, on continuera avec les secrets du saké la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson. C'est No Sink de Rotten Grafty et on reviendra juste après pour la chronique du volume 23 de Altaïr. Donc c'était Rotten Grafty avec la chanson No Sync. On passe maintenant à la chronique de volume 23 de Altaïr. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, drame, fantastique, historique, qui a été écrit par Kato Kotono et prépublié dans le shonen Sirius. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 24 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 23 tomes. Ce volume 23 est sorti le 5 mai 2021 au prix de 7,60€. Le résumé de ce tome, Virgilio Luis, le premier ministre de l'Empire, la restitution de cet homme pourrait avoir un impact considérable sur le cours de la bataille. Zaganos a saisi la première occasion pour lancer ses troupes à l'assaut de Saint-Michel, mais Louis avait anticipé la moindre de ses directives. D'un côté comme de l'autre, la clé de la victoire repose sur deux personnes, Mahmoud pour la Turquie et les Rédéric pour le Baltrin. Tout va se jouer sur leur combat désespéré, la tempête souffle sur Altine. Alors que Zaganos lutte pour renverser la capitale Saint-Michel, Mahmoud tente de repousser les assauts de l'Hérédéric et de ses troupes en surnombre. Le premier qui parviendra à faire plier la forteresse ennemie remportera la guerre. L'enjeu est tel que tous se battent avec l'énergie du désespoir et tous les personnages impliqués sont prêts à donner leur vie, et certains le feront. La double bataille engagée depuis quelques tomes se montre absolument passionnante et rend cette série encore plus palpitante, ce qui semble impossible tant celle-ci l'était déjà. Mais ici, on va délaisser quelque peu Zaganos et le territoire du Baltrin pour s'intéresser avant tout à l'assaut mené à Altine par les troupes de l'Hérédéric. Bien entendu, un point de la situation sera tout de même fait dans les premiers chapitres concernant la situation à Saint-Michel et sur l'avancée de Zaganos, mais l'essentiel de l'action va se passer donc du côté de la Turquie. Et à ce niveau, l'action ne va pas manquer. On va suivre les différents assauts menés sur les différents fronts, chacun défendu par un sultan ou un pacha, et on va assister aux différentes stratégies mises en œuvre, que ce soit par les assaillants ou par les défenseurs. Une fois encore, l'auteur va totalement nous happer avec des incessants retournements de situation. À chaque fois qu'on a le sentiment qu'un camp prend l'avantage, c'est pour mieux nous surprendre avec un twist qui rebat les cartes, encore et encore. Si plusieurs personnages interviennent dans ce tome, on a tout de même le sentiment que les stratégies reposent essentiellement sur les épaules de Mahmoud d'un côté et de l'Hérédéric de l'autre. La grande force de ce titre et de son auteur par extension, c'est de nous faire croire que tel ou tel personnage possède un voire plusieurs coups d'avance sur son adversaire. On pense alors que la bataille est jouée pour se rendre compte au final qu'il n'a pas un coup d'avance mais bien un ou deux coups de retard. Puis, au bout du compte, le premier avait anticipé que le second aurait un coup d'avance et a donc un atout dans sa manche, et ainsi de suite. On va donc de surprise en surprise, de moment fort et épique en moment fort et épique, le tout ponctué par des sacrifices et des coups en traître. C'est bien simple, ce tome ne nous laisse pas un instant pour souffler, mais cela le rend d'autant plus passionnant. Et une fois encore, ce titre démontre son intelligence et sa capacité à nous captiver, de sa première à sa dernière page. On l'aura attendu longtemps, plus d'un an précisément, mais il valait largement le coup. Donc à voir si le prochain sortira un peu plus rapidement, mais étant donné qu'on a juste un tome d'écart avec le Japon, l'attente risque d'être un petit peu longue. Voilà. Donc en attendant, vous pouvez retrouver les 23 premiers tomes d'Altaïr aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Shokoku no Altaïr, c'est Razen no Yume de Cid, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Mortician.
No.
C'était Steed avec la chanson Razen no Yume qui est servie de premier opening pour l'anime Shokoku no Altair. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Mortician. Donc je rappelle que c'est un seinen français de genre action-drame-fantasy qui a été écrit par Vanra et qui est sorti aux éditions Glénat. La série est actuellement en cours avec 2 tomes, ce volume 2 étant paru le 8 juillet 2020 au prix de 7,60€. Le résumé de ce tome, dans un monde où règne une ségrégation violente, l'humanité a complètement asservi les Kara, des démons pouvant prendre forme humaine, faisant d'eux des êtres soumis et sans avenir. Mais lorsque Chihiro, un mystérieux démon aux ailes d'ange, sème le chaos à Ishtar, en commettant une série d'attentats meurtriers, la suprématie des hommes sur une race toujours plus opprimée est remise en question. Parti chercher sa fille, Senri est pris dans la catastrophe. Sorti indemne des décombres, une seule solution se présente à lui, créer une alliance inédite entre humains et Kara, afin de sauver le plus de vies possible. Mais pour les deux races qui se haïssent depuis des siècles, existe-t-il encore un moyen de passer outre les rancœurs exacerbées par un tel drame et mettre de côté leurs différences pour faire front commun et survivre? D'autant que, tapis dans l'ombre, la menace plane toujours. Donc d'entrée de jeu, ce deuxième tome rappelle les heures sombres du 11 septembre. Toutefois, ici, la catastrophe a encore plus d'ampleur, à laquelle s'ajoute une discrimination mortelle vis-à-vis des Kara. Considérés comme inférieurs aux humains, voire comme des animaux, les secours ne les traitent pas comme des personnes en détresse et les font passer en second. Dans ce chaos, les survivants ne peuvent compter que sur les rares bonnes volontés, ce dont Senri s'aperçoit rapidement. Dans ce volume, l'action et l'attention du lecteur se partagent entre la partie sauvetage à laquelle prennent part Senri, Kazuhiro et les Katakari, ainsi que la partie dédiée à Hiru, Miru et Ekori. Avec ce tome, les répercussions de la discrimination des Kara au quotidien et dans les corps de métier sautent aux yeux. Ils sont évincés des professions valorisantes, ne peuvent soigner ou porter secours, si bien qu'au moment où eux-mêmes en ont besoin, il n'y a personne pour les prendre en considération. Heureusement, des réfractaires comme Senri, Kazuhiro et Kano font tout pour changer les choses. À la lumière de la série Stray Dog, on sait qu'ils vont provoquer une évolution, mais nous sommes ici en plein dans ses débuts, sa mise en place, et rien n'est gagné. Par l'entremise de la discussion entre Kano et Kazuhiro, nous en apprenons plus sur ce dernier et sur les frasques de Senri, lesquelles apportent une note de légèreté dans une situation grave et tendue. Senri nous en apprend plus sur les Cinérés. Quant à l'autre groupe que l'on suit, il dévoile à la fois le passé d'Hiru, mais apporte également des explications sur les loups écarlates. Dans le même temps, nous voyons le pouvoir de Miru à l'œuvre, laquelle n'est pas à la fête entre deux Kara plutôt remontés et au caractère pas forcément très aimable. Au niveau du découpage, le manga se montre toujours aussi lisible et dynamique, tandis que les bulles dans les dialogues ne sont pas de la même couleur, ce qui permet plus facilement de savoir qui parle et de s'y retrouver. Bref, on dévore ce tome et comme toujours, l'autrice se montre attentive à la lisibilité de sa mise en page, tandis que l'on se régale aussi bien avec l'histoire qu'avec les dessins. En plus, on termine sur une scène prometteuse et faite pour nous faire mourir d'impatience jusqu'au premier tome. Voilà, donc Mortician a retrouvé en 2 tomes pour le moment aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Keiko de Rubik, et on finira juste après l'émission avec la chronique du volume 4 de Moya Simone. C'était Keiko, interprété par Rubik. On va maintenant finir l'émission avec la chronique du volume 4 de Moya Simone. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre comédie, vie scolaire, tranche de vie, surnaturelle, qui a été écrit par Ishikawa Masayuki et prépublié dans les Gekkan Morning 2 et Evening. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 13 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 13 tomes. Ce volume 4 est sorti le 18 mars 2015 au prix de 9,15 €. Donc le résumé de ce tome, l'Alliance des Microbes continue son périple. Dans la forêt expérimentale, ses membres rencontrent de nouveaux compagnons qui les mènent vers l'Eldorado de la rhizosphère. Attention aux orchidées esclavagistes et aux prélèvements de sol. Quant au club d'ufologie, il a déclaré la guerre au laboratoire Itsuki afin de reconquérir Muto, sa présidente. Mais les connaissances du professeur se révèlent redoutables dans ce combat épique. Par exemple, si les fabriques de poudre à canon étaient adjacentes aux porcheries autrefois, c'était pour une excellente raison. Donc après un début de tome nous offrant un sympathique clin d'œil avec Nodame Cantabile, la même chose avait été faite pour Moya Simone dans le tome 15 de la série de Tomoko Ninomiya, les choses sérieuses reprennent tout de suite du côté des microbes. Ceux-ci poursuivent leur alliance visant à conquérir toujours plus de territoire, et cette fois-ci, c'est désormais du côté des végétaux de la forêt expérimentale qu'ils ont jeté leur dévolu. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la rhizosphère, sur l'impact que les micro-organismes ont sur les végétaux, ou sur le danger que représente pour eux l'orchidée, entre autres. Mais leur plus rude mission reste l'impossible conquête du corps trop affaît de cette chair à Segawa. Tout en nous offrant un fan service, tout en sous-entendu sur la jeune femme, de nouvelles petites informations nous arrivent sur notre épiderme ou sur notre flore. Donc les passages où Masayuki Ishikawa nous propulse dans l'infiniment petit directement aux côtés de ces microbes humanisés sont toujours très fun, surtout grâce à leur soif de conquête et à la façon dont leurs plans sont tenus en échec, et malgré leur trop forte tendance à parler pour ne rien dire. Donc après un début de tome faisant la part belle aux microbes, ceux-ci sont ensuite en grande partie absents du volume, et pour cause, petit à petit, Sawaki se rend compte qu'il ne peut plus les voir. Tout laisse à penser que ce sera temporaire et nous en aurons vite la confirmation. Mais en attendant, l'absence de la principale spécificité de la série nuit un peu au plaisir de la lecture qui se perd un brin. Pourtant, on a quelques informations plus ou moins importantes sur les goûts d'Oikawa, sur la gothique Lolita ou sur ce qu'est devenu Kaiyuki. Mais l'auteur a une façon d'amener certaines choses qui s'avèrent plutôt confuses et pas vraiment marquantes, à commencer par l'identité réelle de la gothique Lolita. Certains autres passages, en tête celui sur la croisade du club d'ufologie pour récupérer leur Ejiri Muto, sont plutôt amusants mais n'apportent quasiment rien, hormis de trop vagues informations sur la fabrication de la poudre à canon. Le principal bon point concerne la raison des chutes de vision de Sawaki, qui, en fin de tome, laisse malicieusement deviner certaines choses dans les toutes dernières pages. Le principal problème de Moya Simone reste une tendance de l'auteur à parfois trop s'égarer, le festival du tome 2 en reste le meilleur exemple, mais la lecture reste plaisante et portée par des personnages sympathiques et des microbes délicieux. Voilà, donc Moya Simone a retrouvé en 13 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter pour finir l'émission le deuxième ending de l'anime Moya Simone Returns. Donc c'est Saikin interprété par Hiragi. On se retrouve vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Sur la côte vendéenne.
Il est 22h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez.
I said one day this world will take you down. And oh, it can swallow your.